France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Une mère, c'est la douceur, c'est la patience. Elle sait se faire obéir sans élever la voix. Elle explique à chaque étape les interdits à son enfant tout petit. Elle l'éveille au monde et chaque découverte est merveilleuse. Ensuite, elle boit un jus d'orange et elle part rejoindre son bureau de décoratrice d'intérieur. En général, c'est là que vous vous réveillez parce que, dans la vraie vie, les mères des tout petits, souvent, très souvent, enfilent un jean sur leur pyjama pour courir à la crèche en retard, vu que le petit a hurlé toute la nuit et qu'à bout de chansons et d'histoires, on a laissé filer. Dans la vraie vie, les mères ne savent pas toujours calmer les colères, elles chopent les varicelles, elles voient leur couple tanguer, elles s'emmerdent ferme au square et elles culpabilisent de regretter de n'avoir pas plutôt adopté un hamster. Après Enceinte, tout est possible, la journaliste Renée Grezard s'est attelée à raconter les premiers mois de la maternité, premiers mois, premières années, et ce qu'elle nous dit, c'est pas si j'avais su que c'était si difficile, j'aurais pas fait d'enfant. Ce qu'elle nous dit, c'est si quelqu'un m'avait expliqué à quel point c'était dur, je m'y serais mieux préparée. Si un homme averti en vaut deux, une mère avertie apparemment en vos cinq. Vous avez connu ça, évidemment. Qui vous a expliqué la nuit de Java au début? Qui vous a expliqué le retour de la maternité? Qui vous a dit que vous seriez débordé par les colères? Qui vous a dit les conséquences de l'épisiotomie? Qui vous a dit que votre congé maternité serait une immense fatigue? Qui vous a dit que le seul endroit où vous serez enfin tranquille, c'est aux toilettes? Il semble que, même aujourd'hui, il y a sinon un tabou, en tout cas un non-dit sur les difficultés d'être mère au début. C'est pas qu'on l'a caché, c'est qu'on a omis de nous le dire. Parce que, troisième génération, féministe ou pas, rien à faire, les mères sont aussi heureuses que maladroites et culpabilisées. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bien, il y en a à voir ce soir. La première, c'est vous, Colline, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Colline.
D'abord, merci pour la qualité de vos émissions. Je vous écoute depuis que j'ai 6 ans, je crois. Enfin, la France Inter de manière générale.
Et vous en avez 12 à peine.
C'est ça. Donc voilà, moi je suis maman d'un petit garçon de 6 ans. Ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que les débuts de la maternité ont été difficiles. C'est même un petit mot pour dire ça. Moi, j'avais considéré que ça allait être le job de ma vie, que ça allait être super, que ça allait être une super maman, que tout allait bien se passer, et ça s'est vraiment pas bien passé. Au-delà des nuits sans sommeil, c'est beaucoup de culpabilité, comme vous le disiez en introduction, de culpabilité de s'énerver contre son bébé, de culpabilité d'avoir l'impression de pas faire bien alors que les autres y arrivent. Donc je me disais, pourquoi elles y arrivaient pas, moi? Et avec les années, en fait, je me suis rendu compte qu'elles y arrivaient pas non plus, mais qu'on le disait pas. y compris ma propre maman, pour qui j'ai tout le respect du monde, et qui voilà, mais qui m'avait brossé un tableau plutôt idyllique de la maternité et des suites. Donc je suis tombée des nues, vraiment, et ça a été compliqué avec mon mari, moi-même. Voilà, ça a été un vrai gros bouleversement. Donc voilà, je considère qu'il y a vraiment un tabou de la parole, il faut pas le dire, c'est quelque chose qui devrait être brisé parce que c'est très dangereux.
Mais du coup, Colline, est-ce que vous, autour de vous, désormais, vous vous répandez en expliquant comment se sont passées les toutes premières années?
Alors oui, la façon dont je le fais là ce soir, mais par contre, les réactions que j'ai en face, c'est des réactions très choquées.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'on me regarde mal, on change de sujet, y compris avec des amis proches ou des copines de parc, comme on peut dire.
Ouais.
C'est-à-dire que ça reste, on ne doit pas le dire. Bon, c'est la sensation que j'ai en tout cas.
Merci beaucoup, Colline. À vous seule, vous avez fait un parfait résumé de tout ce qui va être évoqué au cours de cette émission et jusqu'à 20h. À tous, je vous présente donc Renée Grezard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez écrit donc Choisir d'être mère, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Tout ce qu'on ne nous a pas dit sur la parentalité qui occupe et qui justifie notre discussion de ce soir. Et puis Aini Martiskainen est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la famille. Vous avez travaillé sur les manières dont les femmes parlent de la maternité, pour citer l'un de vos articles, qui date de 2011, mais c'est fou comme il est totalement d'actualité aujourd'hui. Il aurait pu être écrit finalement hier. Et cet article s'appelait « Devenir mère, dire sa maternité ». C'était paru dans Revue politique, sociale et familiale. C'était en 2011. Encore
hélas,
une fois, ça marche.
Oui,
et oui, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais presque dire hélas. Renée Grezard, Colline vient de résumer en peu de mots ce que vous nous expliquez dans ce livre, et elle a tous les mots qu'il faut. C'est-à-dire, d'abord, je croyais que ce serait le job de ma vie. Ça, c'est ce qu'on nous, dit, d'abord. Tu verras, ça va être tellement génial, formidable.
C'est vrai que ce discours existe. Moi, personnellement, je suis pas arrivée dans la maternité en me disant que ça allait être le job de ma vie. Mais il y a une idée que c'est l'idée de la Madone, hein. Enfin, la mère parfaite. Et même quand on se dit qu'on va pas être cette femme-là, ça pèse. Cette image pèse. Et moi, enfin, en écoutant Colline, je ne vous cache pas que j'ai ressenti une grande émotion. Je suis toujours très émue d'entendre des mères raconter à quel point elles ont douillé, parce que c'était mon cas. Et je pense que c'était le cas de ma mère. Ma mère, en fait, je lui dédicace ce livre, et je lui dis au début du livre combien je la remercie et que je sais aujourd'hui ce que ça lui a coûté. Quand elle a lu ces mots, elle s'est mise à pleurer, et je l'ai tenue très très fort dans mes bras pendant très longtemps.
En lui disant, c'est pas grave, mais quand même, t'aurais dû me le dire.
C'est ça. Et effectivement, quand elle dit qu'elle a du mal à le faire entendre autour d'elle, il y a un tabou, il y a un secret, parce que, et alors là, peut-être que je vais laisser Annie le dire très bien, elle dit cette phrase que je trouve extraordinaire à propos d'un cadeau, qu'un cadeau n'est plus un cadeau, quand on en dit le prix.
Et exactement, il y a juste une chose avant qu'on vous écoute, évidemment, Annie, non seulement les gens sont choqués, les gens veulent changer de sujet, mais vous aussi, on vous l'a dit, tu vois, nous dégoûte pas non plus. La phrase texto, c'est ça.
Exactement.
C'est pas nous dégoûter non plus.
C'est ne dégoûte pas les autres. Et voilà. C'est une femme qui est mère elle-même qui me l'a dit. C'est-à-dire, et je trouve cette phrase géniale, parce qu'elle dit, elle me dit pas non, c'est pas vrai. Elle me dit oui, c'est vrai, mais chut, ça reste entre nous.
C'est terrible. Annie Martiskainen, moi, ce qui me vient à l'esprit en vous lisant, c'est surtout que c'est un tabou universel. En fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait un pays occidental au monde qui ne vive pas exactement la même chose.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le récit, l'expérience que nous avons entendue est quelque chose qu'on peut entendre dans les pays nordiques, qu'on peut entendre en France.
Et votre petit accent est finlandais, je le dis parce que c'est important dans les pays nordiques. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui diffèrent de la manière dont nous fonctionnons.
Voilà, donc cela vaut. Cela vaut pour les pays occidentaux. Nous sommes dans une situation où il y a une collision, je pense, entre les attentes des femmes et la réalité sociale. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs évolutions historiques qui vont faire qu'il y a des contradictions qui s'actualisent quand on devient parent à la naissance. Et la situation est rendue encore plus difficile pour les parents qui peuvent être désorientés, bouleversés, en souffrance, souvent, c'est qu'il est difficile d'en parler.
Moi, ce qui
on peut être socialement sanctionné. J'ai étudié des conversations entre mères en étudiant les manières dont les plaintes étaient reçues par un interlocuteur. Et on peut être objet de sanctions sociales dans des situations face à face quand on exprime une plainte, tellement la maternité est normée, tellement elle est idéalisée et tellement la réalité est autre.
Et c'est fou quand même, parce que on est, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, nous sommes à la troisième révolution féministe aujourd'hui. Vous êtes, vous René, mais d'autres aussi, et la plupart de ceux qui nous appellent d'ailleurs, la génération MeToo. Mais on a l'impression que cette image normée de la mère, enfin, c'est-à-dire, c'est l'image des publicités des années 50, quoi. C'est quand même fou que ça n'ait pas bougé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, l'une ou l'autre, hein? Peut-être Annie d'abord et puis René juste après.
Alors, je dirais que ça s'est déplacé. Enfin, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs évolutions historiques qui font que, la parentalité est objet d'investissement affectif, et la situation de parents qui peuvent mal vivre la transition, avoir des difficultés, ne pas pouvoir partager leur expérience est d'autant plus grande que la parentalité est quelque chose de très investi. Affectivement, nous avons moins d'enfants, nous les avons plus tard, et nous investissons dans...
On y met une plus grosse charge du coup aujourd'hui.
Oui. Et l'enjeu pour nous, l'enjeu identitaire, la volonté d'être un bon parent, est un enjeu identitaire important. Donc, ah oui, la question de l'idéalisation de la mère, elle s'est déplacée un petit peu, c'est-à-dire que l'enfant est devenu peut-être un objet quasiment sacré dans, mmh. dans la société aujourd'hui. Mmh. Il y a eu développement depuis les années 50 d'une nappe discursive de professions spécialisées dans mmh. l'enfance. Mmh. Enfin, on est entouré de conseils, de discours psy, tous centrés sur le bien-être de l'enfant. Et peut-être que cette culpabilisation, que cette idéalisation s'est déplacée un petit peu, mm-hmm. non pas du rôle féminin auquel on n'adhérerait plus, mm-hmm. la mère au foyer avec son tablier à mm-hmm. se consacrer à son mari et à ses enfants, mais voilà, c'est déplacé un peu sur l'idéalisation de l'enfance et la valeur du bien-être de l'enfant.
Et du coup, René Grosard, en écoutant Annie Martinskainen, je me dis c'est peut-être même encore pire, en fait, aujourd'hui, à cause de ce qu'elle vient de dire. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, cette espèce d'enjeu identitaire, comme le dit Annie, cet objet qu'allait devenir votre enfant, peut-être plus que vous ne l'avez été vous-même dans votre famille quand vous êtes née, en fait.
Alors moi, il faut peut-être préciser que ma mère est d'origine sénégalaise, et ça joue beaucoup, je pense, dans le regard que je porte sur la maternité, mm-hmm. parce que, justement, même s'il y a aussi une sacralisation du rôle de la mère au Sénégal, il y a des façons d'élever des enfants qui sont très différentes mmh. et qui, moi, clairement, orientent ma vision...
Sans caricaturer, qui sont un peu plus nourris d'amour et d'eau fraîche, en fait, d'une pile de bouquins, c'est ça qu'on dit, en fait.
Je pense que oui, il y a du romantisme, en fait, autour de la question ouais. de la maternité en Occident. Et clairement, au Sénégal, il y a quand même quelque chose, moi, que j'ai observé et qui est super fort, c'est qu'en fait, un enfant, c'est le proverbe qui le dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Mmh. Et ma mère au Sénégal, elle dit, un enfant, c'est bien, avec plusieurs mains, c'est mieux. Mmh. Et en fait, ce qu'on fait actuellement, de laisser une femme toute seule avec un tout petit bébé qui pleure, je suis désolée, mais c'est inhumain, en fait. Mm-hmm. Enfin, on n'est pas. Il y a des psychologues qui le disent. Je l'invente pas, ça. Ouais. On n'est pas capé. Un être humain n'est pas capé pour être seul face à un enfant. Ça n'est pas possible.
Un, il n'est pas capé pour être seul face à un enfant. Et deux, il a le droit d'appeler au secours. Ça n'est pas une mauvaise personne pour ça. Et c'est vrai que c'est des choses dont on a l'impression qu'il faut les marteler. Mm-hmm. Ève est avec nous. Bonsoir, Ève.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Ève.
Alors moi, je voulais apporter mon témoignage, mais parmi ce que j'avais à dire, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais tout de même, je voulais préciser que pour moi, les difficultés sont vraiment apparues quand, en fait, j'ai repris le travail. Mon enfant avait 4 mois, elle en a 6 aujourd'hui, et c'est vrai que je m'attendais à galérer sur ces 3 premiers mois, parce qu'on parle beaucoup de ces 3 premiers mois qui sont difficiles, mais je m'attendais pas que ça perdure dans le temps, que ça dure aussi longtemps. Et quand la vie professionnelle est arrivée en plus de mon job de maman, ça a été une période extrêmement déstabilisante. Et c'est vrai que j'ai eu ces pensées qui sont très culpabilisantes, mais aussi source d'une grande panique, qui sont de dire « mais en fait, je suis en train de regretter ma vie d'avant. Mmh, mmh. Est-ce que finalement, j'ai pas fait une très grosse erreur en choisissant d'avoir un enfant ?» Et ça, c'est terrible à penser. Mmh. Mais ça fait beaucoup de bien quand on peut en parler. Mmh. Et donc, c'était mon cas. Et puis, quand j'ai pu recevoir aussi la parole d'amis à qui je confiais ça et qui me disaient « mais tu sais, moi aussi, ça m'arrive souvent. » et du coup, c'est vrai que pour moi, j'ai la chance de pouvoir être bien entourée et d'avoir cette parole libre d'exprimer ce que je vis, notamment avec mon conjoint, mais avec ma famille et des amis. Et c'est vrai que j'ai fait le choix de dire avec sincérité et authenticité les doutes, les difficultés, les émotions traversées. Et je me dis que peut-être ça peut contribuer à mieux informer les futurs parents ou ceux qui se questionnent sur leur future parentalité. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir été désagréablement surprise.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Ève. René Grosard, est-ce que vous avez eu envie de rendre Ulysse au magasin?
Ah non, jamais. Okay. Mon Ulysse, c'est mon trésor. Je l'aime d'amour. Moi, je l'aime, mais d'une passion folle. Je suis tombée amoureuse de lui dès qu'il est né. Enfin, très vite. Non. Ulysse n'est pour rien. En fait, même, je vais vous dire, j'ai presque de la colère pour lui aussi. Mm-hmm. C'est que pour moi, les enfants sont aussi les victimes de ce dont on est en train de parler ici. C'est-à-dire que si les mères sont mal, moi, en fait, pendant mon congé maternité, il y a des jours où je pleurais tous les jours avec lui dans les bras et j'arrivais pas à le soulager. Et en fait, c'est pas bon pour un enfant, ça non plus, en fait, d'avoir une mère qui est pas bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je dénonce, en fait, les conditions de réalisation de la maternité, maternité aujourd'hui, c'est aussi pour les enfants.
Et vous dites d'ailleurs, il faut respecter les besoins des enfants, mais en parlant des livres notamment qui sont écrits, vous dites il faut respecter les besoins des enfants, mais enfin il y a rarement de choses écrites sur le fait que les parents ont aussi besoin de respecter leurs propres besoins. Comment peut-on imaginer qu'on va prendre soin des enfants sans prendre aussi soin des parents? Vous citez cet exemple qui est très parlant du masque à oxygène qui tombe dans un avion. Il faut que ce soit l'adulte qui mette le masque d'abord pour pouvoir le mettre à l'enfant, sinon il y a toutes les chances pour que les deux meurent. Donc si le parent ne va pas bien, de toute façon, l'enfant ne va pas bien. Aini Martikainen, ça aussi, il faut le répéter souvent.
Oui, hein. qui prend soin des mères
hein, oui.
dans leur état, surtout. Bon, après, la maternité est un processus un peu comme, si on pense qu'en Simone de Beauvoir, je veux dire, mère, devenir mère, c'est on ne naît pas mère, on le devient. Mmh. C'est un long processus. J'ai près de 60 ans, je suis toujours mère. Je vois peut-être ma maternité différemment, mais enfin, voilà. Et donc,
mais c'est pas grave. On reprendra le fil de cette phrase dans un instant. On a le temps d'écouter Pauline. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je voulais apporter mon témoignage. C'est le mien. Il est personnel. Je me reconnais beaucoup dans tout ce que vous avez dit et je me suis déjà reconnue dans les premières phrases d'introduction du sujet où effectivement c'est soi-disant merveilleux mais en fait ça l'est pas du tout. J'aime mes enfants, j'en ai deux. Par contre moi je trouve qu'on nous ment, alors certes certainement par omission, mais dès le début sur la grossesse et surtout sur les suites de couches, personne ne nous dit qu'on va se retrouver seul face à un petit être qu'on ne connaît pas, qu'on doit apprendre à connaître, apprendre à aimer, avec un corps qui n'est plus le nôtre, du temps qu'on n'a plus pour nous, des cernes. Alors bien sûr, il y a des super papas. Moi, j'ai un super mari qui est là. Mais cependant, alors j'ai pas eu de baby blues, alors je l'ai pas identifié en tant que tel. Mais je trouve quand même qu'on n'est pas du tout prévenu aujourd'hui dans notre société que la période, que c'est pas que merveilleux quoi. Moi j'ai essayé, hein, je me suis inscrite à des groupes, Isabelle Philosia, je crois, par-ci, par-là, parents positifs, l'éducation positive, et en fait ça me renvoyait en moi que j'étais plutôt un parent négatif. Moi j'arrive pas à faire des macramés le mercredi avec mes enfants, j'arrive pas. Alors il faut que je gère le rugby, la bibliothèque. En même temps, j'ai décidé de travailler à temps plein et comble du comble de prendre mon vendredi après-midi et pas mon mercredi après-midi. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvée. C'est-à-dire que j'ai le vendredi pour moi et que mes enfants sont à l'école. Et voilà. Alors, je les aime.
Ah ouais.
Alors, j'en ai fait deux, donc je pense qu'aussi la vie, le corps est bien fait. On oublie, donc on recommence. Après ça, mais voilà. Moi, et ma mère est féministe. Je pense être féministe. Mais en fait, je pense que moi, elle m'a pas expliqué. Parce que déjà, je pense qu'elle me, pour elle, la maternité, c'était pas un but en soi, en fait. Je pense que d'abord, elle avait lutté pour ses droits. Et après, bon, elle me projetait pas en tant que mère. Moi, d'ailleurs, ça n'a jamais été un rêve. Un jour, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, je vais avoir des enfants. Voilà. Mais je les aime, je les assume, mais j'arrive pas alors peut-être que je mets beaucoup la pression. C'est-à-dire qu'il faut que je les emmène au ski, qu'il faut que je les emmène au rugby, quand même, il faut qu'ils aient une éducation culturelle, une éducation musicale. Et qu'en même temps, on ait du temps en famille. Donc voilà. Mais voilà, c'est juste mon ressenti. Et par contre, on en parle entre copines. Je pense que maintenant, on en parle vraiment. En tout cas, dans mon groupe de copines, on n'hésite pas et on se regarde et on souffle en disant vivement qu'il grandit.
Et c'est peut-être ça, vivement qu'il ait 18 ans, qu'il paye une retraite. merci beaucoup. Merci vraiment pour ce témoignage. René Greuzer, moi, ce que j'adore dans ce témoignage, c'est que, et ça commence toujours comme ça parce que c'est fou. Alors, pour le coup, les générations de mères culpabilisées, j'aime mes enfants,
mais.
Et c'est formidable. On comprend évidemment pourquoi vous avez dit la même chose au sujet du livre.
On dit ça parce qu'on a peur, en fait. Je pense que le poids de... Et c'est pour ça que c'est très important, je pense, que des mères disent qu'elles regrettent. Moi, je pense que, en fait, ce qui est important, c'est que les femmes s'expriment dans tout leur vécu. Et si des mères sont très heureuses, qu'elles ont été prévenues et qu'elles n'ont pas eu de difficultés, très bien que ces discours-là existent.
Et puis, on n'est pas égales devant. Hein. Pour certaines, ça se passe super bien, tant mieux.
En fait, on est toutes différentes. Donc, il n'y a aucune raison que dans la maternité, on soit toutes dans le même moule et qu'on ait toutes les mêmes... Enfin, voilà, moi, je le dis dans le livre, je suis quelqu'un d'assez sociable, j'aime boire des coups avec mes amis, faire la fête. Je ne vais pas avoir la même réaction face à un nourrisson qui pleure toute seule que quelqu'un qui a aucun problème avec la solitude et même qui aime ça.
Et est-ce que du coup vous regardez différemment les nourrissons, parce qu'il y a des exemples comme ça, notamment dans le train, quand on n'arrive pas à tenir son môme, etc., parce qu'on voit bien les yeux au ciel levés par les gens dans le même wagon. Est-ce que désormais vous regardez de manière beaucoup plus bienveillante, en fait,
ces mères
dans les trains ou dans les transports ou je ne sais où?
Moi j'ai de la compassion pour les parents quand même, parce que en fait ce que je vois quand quelqu'un est dans le train comme ça avec son enfant qui braille, qui gesticule, et voilà, c'est en fait le jugement. Et le jugement, en fait, il dit beaucoup de choses super intéressante. Il dit à la fois qu'on juge le parent qui ne sait pas rester dans son petit carcan et ne pas bouger, mais il dit aussi en fait quelque chose sur la place des enfants. Et ça, c'est super important. C'est qu'en fait, le sujet au bout du bout, en fait, quand on parle de la maternité, c'est aussi quelle place on donne à nos enfants dans une société. Moi, par contre, par exemple, il y a quelque chose que je trouve très très gênant, c'est à quel point, en fait, il n'y a pas d'espace imaginé pour les enfants dans les bars. Quand je dis bar, je veux pas un petit comptoir à bière pour un enfant, ce n'est pas ça. Mais par exemple, il y a un endroit que j'adore, moi, à Paris, qui s'appelle, c'est le bar de la Cinémathèque qui s'appelle Les 400 coups. C'est un endroit qui est génial. Pourquoi ? Parce que c'est un restaurant et à l'intérieur, il y a un petit espace où les gamins peuvent jouer, dessiner sur un tableau, faire des trucs avec des petits personnages. Et pendant ce temps, les adultes, eh ben, ils peuvent parler entre eux. Ils ont des vies d'adultes. Et ça, en fait, c'est super important, je pense.
Il y a autre chose dont parle notre amie auditrice à l'instant, c'est le corps. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que, et vous le dites, c'est rude pour le corps. Et ça non plus, on nous le dit qu'à moitié. Alors, l'épisiotomie qui est faite beaucoup plus souvent qu'elle devrait être faite, la difficulté de l'allaitement, les kilos bébés qui mettent un temps considérable à partir, le mal de dos qui est un mal de dos bien réel, ça pèse sur le corps, et quand on n'arrive pas à se regarder soi parce qu'on se trouve moche, c'est compliqué aussi derrière d'avoir de la bienveillance pour le tout petit bonhomme ou la petite bonne femme qui vient de naître aussi, l'une ou l'autre, Aini Martikainen, sur le corps.
L'expérience corporelle de la grossesse est très attendue. Elle est délectée comme une période de suivre ces transformations du corps. Le corps enceinte est valorisé aujourd'hui. La situation a été très différente il y a quelques décennies.
Désormais, il est photographié, voilà. Etc.
Donc, autant on est dans une approche peut-être un petit peu une orientation hédoniste pendant la grossesse, autant il est vrai, et cela paraît incroyable aujourd'hui, que les conséquences physiologiques de la maternité ne sont pas assez connues. Donc on retrouve cette thématique de l'impréparation, que ça soit pour faire face à ces changements physiologiques ou les soins aux enfants. Affronter la disponibilité qu'il faut pour un tout petit.
Sans compter qu'on n'a pas forcément une libido au top, qu'on ne sait pas si on a été bien réparé de ce point de vue-là, qu'on ne sait pas si on est encore désirable. Enfin, il y en a des choses là-dedans, c'est hyper chargé.
C'est très chargé au niveau du corps, c'est sûr. Un enfant, enfin, le corps vit tout ça et c'est lourd. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose, c'est que je trouve aussi qu'il y a un imaginaire à réinventer autour du corps des mères. Parce que en fait, et c'est ça qui est vraiment, pardon, mais dégueulasse, c'est que non seulement on attend de la mère qu'elle soit parfaite, mais en plus, en fait, une fois qu'elle a eu un bébé, il y a cette idée de péremption. C'est son corps est passé par la maternité et donc maintenant il n'est plus désirable, il n'est plus voilà. Mais en fait, le corps n'est pas forcément destiné déjà à être désirable. Un corps, c'est quand même une enveloppe qui nous rend service et ça c'est très important. Et surtout, moi, personnellement, en tant que mère, j'ai ressenti quelque chose et j'ai trouvé ça assez étonnant parce que j'avais pas vu venir ce truc. Je me suis trouvée plus belle après avoir eu un enfant qu'avant, pas pendant les premiers mois. Et d'ailleurs, je conseille un livre sur ce sujet, sur le postpartum, le livre d'Ilana Weisman, qui est super parce qu'elle dit exactement tout ce qui se passe. Donc je dis pas que le postpartum est un moment simple, et moi-même je me suis trouvée pas moi, en fait, puisque grosse ou je sais pas quoi, voilà, j'étais pas moi. En revanche, quelques années plus tard, mon corps avait produit quelque chose, et dans ma tête, je savais que c'était comme de la pâte à modeler. Je me suis dit, en fait, tu peux faire ça, quoi. Tu peux faire un bébé, grossir du bide comme ça, de ouf, et ensuite revenir à quelque chose de différent encore. Et je crois que moi, je me suis sentie plus puissante après avoir produit ça qu'avant. Et j'aimerais bien qu'on puisse dire aux mères, vous croyez pas que vous vous trouverez plus moche après. Vous pouvez vous trouver plus belle après.
Bonsoir Marion.
Bonsoir.
On vous écoute.
Mais moi, je vais revenir un petit peu sur ce que disaient les précédentes auditrices au sujet de la parole entre femmes qui souvent reflètent plutôt les bons côtés de la maternité. Alors autant quand on est enceinte qu'ensuite, on nous valorise, dit plein de belles choses, on se conforte un peu là-dedans, mais on entend très peu les côtés négatifs, même après l'accouchement, etc. Mmh. Et j'ai remarqué en discutant avec des amis, des collègues que je connaissais à peine, que sitôt que quelqu'un ose dire qu'il a du mal, qu'à la maison c'est terrible, que le ménage n'est pas fait, qu'elle n'arrive pas à coucher son bébé de 2 ans, que son mari il n'est pas à la hauteur, ou en tout cas il ne répond pas aux attentes qu'elle met sur ses épaules. Enfin, on a le droit aussi de trouver que même s'il en fait beaucoup, et ben il en fait pas autant que nous. Et puis et en fait, à partir du moment où il y en a une, moi ça m'arrive dans la cour de récréation, pour tout vous dire, dans mon école. Ça m'est arrivé encore récemment où j'ai demandé à ma collègue remplaçante pourquoi elle était remplaçante. Au cours d'une discussion, elle m'a dit parce que sinon j'y arrive pas à la maison. Mm-hmm. J'ai trop de travail, donc je peux pas gérer la maison, gérer les enfants, gérer les activités. Mm-hmm. Moi, mon mari part le samedi matin à la chasse et il revient le soir. Et en fait, j'ai pas de vie, donc j'ai dû prendre
un
vendredi. Et pour pouvoir faire le ménage et m'occuper de la maison comme elle doit être et récupérer les enfants. Et j'ai été obligée de prendre un vendredi en 80% pour pouvoir être juste à la hauteur de ce que je voudrais être. Et donc je lui ai dit, oh, bah, c'est drôle, on a la même vie, sauf que moi je suis à temps plein. Et puis bah tant pis, mon ménage n'est pas fait. Et elle m'a regardée d'un air soulagé. Mmh. Et c'est là qu'on s'est raconté nos vies, et qu'on avait sensiblement les mêmes et qu'on avait les mêmes attentes auxquelles finalement on était obligé de faire des croix dessus sur beaucoup de choses qu'on avait dans nos têtes. Et je pense que le salut vient aussi du fait d'être capable de faire des croix sur des images de la mère qu'on s'était imaginées depuis toute petite. Moi, je sais que je me souviens pas... que la maison ça était sale quand on était petit. Or, ma mère m'a dit récemment que, bah si, quand on était tout petit, bah il y a des fois, la maison n'était pas complètement rangée. Mmh. Voilà. Et, sauf que dans la tête d'un enfant à qui on n'a jamais dit que, on avait eu des difficultés avec la petite enfance, gérer tout. Et ben moi, dans ma tête, je m'étais construite comme si ma mère avait été une femme parfaite d'intérieur, d'éducation exemplaire, etc. Sauf qu'elle m'a dit récemment que c'était pas le cas, qu'elle me ressemblait, et que moi, à mon âge, j'ai 34 ans, quand je discute avec même de parfaites inconnues et qu'on s'échange un petit peu nos vies, on s'aperçoit qu'en fait la réalité est la même pour tout le monde. On a des très bons côtés dans la maternité. Les enfants, on les aime, on a envie de faire des choses avec eux, mais on n'est pas à la hauteur de ce que les livres
l'imaginaire social.
Oui. Merci vraiment pour votre témoignage, Marion. Moi, elle aborde quelque chose, Marion, que je voudrais vraiment aborder avec vous. Elle parle des mecs à côté. Et du coup, j'ai une double question. Et vous savez pourquoi ? Parce que notre ami Tristan, qui est le réalisateur habituel de cette émission, est chez lui aujourd'hui parce que la crèche est fermée. Et en écoutant le lancement tout à l'heure, il m'a dit paternité, c'est pareil. Parce que moi, la journée au parc, c'est moi qui me la suis tapée aujourd'hui. Et on embrasse Tristan, je suis sûre que ça s'est super bien passé. Mais je me demande, en vous lisant, si l'une et l'autre d'ailleurs, si c'est pas précisément en ce moment dans la maternité, ou alors pour le coup tout ce qu'on a travaillé sur la charge mentale, boum, part un peu quand même en sucette, pardon de le dire comme ça, René Grosin.
Alors non, mais en fait les femmes continuent, en fait quand on parle des charges domestiques des femmes et qu'on dit qu'elles sont plus en charge de tout ça dans la maison, les enfants en font partie, elles s'occupent en moyenne 1h33 des enfants par jour contre 44 minutes.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire, malgré tout ce discours qu'on a sur attention, il faut inverser la charge mentale, etc., au moment où l'enfant arrive, boum, on revient un peu à la case départ en fait.
Découvre, en fait, il faut un enfant, c'est une lutte aussi pour son sommeil, pour son temps libre. Donc par exemple sur le temps libre, c'est super intéressant, on voit que les loisirs baissent. Il y a une étude d'une sociologue qui raconte comment, par exemple, les gens vont plus au cinéma. Donc, il y a 38% des femmes qui s'arrêtent d'aller au cinéma, et les hommes, chez les hommes, c'est 28%. Donc, en fait, les loisirs baissent, mais ils baissent plus pour les femmes que pour les hommes. Et en fait, ça, c'est super important, c'est qu'il faut dire que tout ce dont on est en train de parler là depuis tout à l'heure, des mères pour qui c'est difficile, ce sont pas juste des mères qui psychologiquement sont en difficulté. Mmh. Ce sont des mères qui sont dans un système patriarcale, je suis désolée de dire les gros mots que les gens n'aiment pas, mais qui les mettent en difficulté. Et en fait, il y a des gens qui profitent, je dis pas que les hommes profitent, c'est pas vrai, mais en tout cas, ils sont plus à l'aise dans ce système-là que les femmes.
Mais est-ce que ça veut dire, Annie Martinskainen, que tout ce qu'on a pu écrire, elle parlait des livres tout à l'heure, Marion, mais y compris sur ce qu'est le nouvel homme d'aujourd'hui, les nouveaux papas et ceux qui réclament à juste titre des congés paternité, etc. Est-ce que ça veut dire que là aussi, il y a un petit décalage entre...
Sociologiquement, on peut parler d'une révolution arrêtée de la paternité. Il y a aussi peut-être une polarisation, c'est-à-dire qu'il y a des hommes très impliqués, des hommes qui vont partager, des hommes qui vont prendre des congés parentaux, mais qui sont encore très minoritaires. Et on trouve là aussi la thématique à la naissance d'un enfant dans des collisions entre attente et réalité. C'est-à-dire que évidemment les jeunes femmes, je veux dire, aspirent à une égalité entre les sexes. Elles vont se construire comme ayant des appartenances multiples. Une carrière professionnelle va être une évidence. Elle souhaite les conserver. Elle souhaite partager les soins, l'éducation d'un enfant avec leur partenaire. Et la naissance, à la naissance, il y a quand même une inégalité qui s'actualise et qui ne correspond peut-être pas aux ententes des jeunes femmes d'aujourd'hui.
Alors, deux témoignages. D'abord, voici l'homme. Et c'est Rémi. Bonsoir Rémi.
Bonsoir.
On vous écoute, vous êtes cerné Rémi, mais allez-y, parlez sans crainte.
Non, mais j'appelle en paix, hein. j'ai mon drapeau blanc. J'ai appelé tout de suite, alors évidemment j'ai appelé avant le début de l'émission, je trouvais que la présentation qui était faite de l'émission était peut-être un petit peu unilatérale et je me sentais exclu de la conversation. Évidemment, la partie maternité, pré-accouchement, on se sent exclu et assistant et on assiste à des fois. En revanche, ce qui se passe après, alors sur le plan physique, évidemment, on morfle pas de la même manière. Ça c'est évident. Par contre, sur la pression sociale, sur l'éducation des enfants, sur le fait d'être un paria quand on dit quand je vais être un petit peu grossier quand ça nous emmerde d'aller dans un parc ou de vivre une kermesse qui nous saoule, enfin bref, toute cette pression sociale, malgré tout, qu'on soit un couple homme-femme, homme-homme ou femme-femme, je pense qu'elle est la même pour tous, pour les parents d'une manière générale. Et au-delà de l'aspect homme-femme, je vais redire un mot que j'ai déjà employé, je pense que c'est une pression sociale. Mais après, j'ai pas pu écouter toute l'émission, mais j'imagine que je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti, j'imagine que je ne suis pas le seul à l'avoir dit.
Et ben, alors pour l'instant, vous êtes le premier, mais il y en a des appels comme le vôtre, et puis les pères ne sont pas absents. Avant de commenter ce que vous venez de nous dire, justement, je voudrais qu'on écoute Constance, bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos interventions. Je tenais juste à réagir un peu dans la même lignée que le témoignage de Rémi. C'est vrai que depuis le début de l'émission, on a relativement peu parlé des conjoints, des papas notamment, qui vivent en fait la même chose que nous. Après la maternité, on a un petit là qui a 18 mois et on s'est retrouvés tous les deux avec mon mari, en fait démunis. C'est notre premier enfant, pas du tout préparé à ce qui allait se passer, mais on était vraiment en fait dans le même bateau. Aussi bien lui que moi, on se retrouvait un peu seul avec nos questionnements. Est-ce qu'on fait bien les choses? Effectivement, il y a cette pression sociale de ne pas oser gronder son enfant dans un magasin parce qu'on a peur. Mais j'ai l'impression que les papas vivent la même chose, en fait, ou le deuxième parent, la même chose que la maman. Et qui sont aussi présents. Et je pense aussi que c'est important de parler d'eux, parce que peut-être, moi je me dis aussi, en les excluant un petit peu de ces émissions, même si on en parle à la fin, je me dis, si on les fait pas intervenir, comment ils peuvent se sentir concernés aussi?
Merci beaucoup.
C'est aussi notre rôle de les intégrer encore plus dans les émissions, dans les choses comme ça qui concernent la parentalité.
Merci.
Et peut-être que ça va changer justement la vision des choses de beaucoup d'hommes.
Merci Constance. René Grezard, du coup, et en écoutant Rémi et Constance, je vais poser la question à l'envers. Ce que vous nous avez expliqué effectivement, et avec des chiffres à l'appui sur la charge mentale, on le comprend bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez les femmes, une part qui, et même inconsciemment, exclut l'homme d'une certaine façon, parce que t'en bouge pas, de toute façon, je vais mieux savoir, de manière très inconsciente, mais ça existe ou pas?
Je pense que je sais pas si je m'aventurerais à parler d'inconscient parce que je pense que même ça c'est construit socialement en fait, c'est-à-dire que le congé maternité en fait qui fait des femmes les premières responsables de l'enfant en fait les socialise enfin les fait d'elles en fait les premières compétentes de leur enfant et effectivement après quand le père ou le coparent revient on dit bah non mais non tu sais pas faire moi je sais faire et en fait un enfant j'ai une copine qui dit ça et je trouve ça très vrai il est plein de gratitude et en fait il va surtout se tourner vers la personne qui s'occupe le plus de lui et il est dans une sorte de petit manège d'habitude comme ça quoi. Moi j'avais un exemple d'un enfant qui se tournait toujours vers son père pour lui demander de faire ses lacets parce qu'il avait l'habitude que son père lui fasse ses lacets. Donc je pense que c'est là que le congé paternité est quelque chose de dramatique en fait. Cette inégalité en fait c'est des dominos. Il y a un domino qui tombe et en fait ça ne s'arrête pas de tomber jusqu'au travail, aux conséquences dans le travail et ça dure longtemps en fait comme ça un petit peu.
Alors, on sait qu'il y en a beaucoup hein, des Rémi par ailleurs aussi évidemment qu'il y a des Rémi
enfin,
et c'est exactement
et tant mieux
c'est exactement ce qu'on disait il y a aussi
on en veut plus
exactement voilà. Plus de Rémi il pose une question Rémi que je trouve intéressante est-ce que vous l'évoquez un peu en introduction d'ailleurs est-ce que cette difficulté là c'est aussi une difficulté qui est très inhérente au couple hétérosexuel ou est-ce que les choses se passent différemment dans les couples gays que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs est-ce que vous avez l'impression que la répartition est beaucoup plus naturelle ou pas
Moi, de ce que j'ai observé dans des couples gays ou queer, c'est assez intéressant. Il peut y avoir parfois une reproduction de rôles hétéro de temps en temps, c'est-à-dire qu'on revient en fait dans des cases avec une façon de fonctionner de type, enfin, quelqu'un qui, en fait, les rôles sont là, mais c'est pas la même personne qui les joue. Et par ailleurs, parfois, il y a une conscience plus aiguë de toutes ces choses-là. Mm-hmm. Et notamment, moi, il y avait un couple avec un papa trans qui racontait comment en fait et je trouvais ça génial ils ont un trick count en gros ils ont non c'est pas eux qui avaient un trick count ça c'est encore un autre couple ils ont en fait un agenda et chaque jour c'est soit le papa 6 qui s'occupe de la petite et l'autre jour ça va être le papa trans et en gros il y a un truc où ils sont répartis de manière très organisée et ça c'est pour ça que je trouve ça important aussi de parler de tous ces sujets c'est que prévenir il s'agit pas juste de pouvoir déployer une parole il s'agit aussi de pouvoir organiser. Et en fait, si on dit que c'est difficile, c'est aussi que derrière, on peut par exemple imaginer qu'une semaine, elle soit divisée entre les deux parents, tout simplement. Si on est deux, parce que parfois on est tout seul aussi, on peut imaginer des vies collectives, etc.
Et alors, justement, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ? Ou qu'est-ce que vous feriez différemment si demain vous aviez un autre enfant que vous n'avez pas fait maintenant que vous êtes informée ?
C'est super dur de répondre à cette question parce que moi je suis séparée du père de mon fils, notamment parce que ça a été compliqué. Donc aujourd'hui,
et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut dire parce que des fois ça tangue sévèrement, la preuve.
Ça tangue très fort. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai un projet d'enfant avec l'homme avec qui je suis. Et ben dans les choses qu'on envisage, il y a déjà moi je veux pas être toute seule pour un congé maternité, c'est hors de question. Et ensuite, on en a parlé ensemble. Il est complètement d'accord avec moi. Et ensuite, dans la répartition des tâches, je pense que c'est des choses qu'on va discuter très longuement ensemble pour qu'il y ait pas après de bataille entre nous sur ces sujets-là et qu'on fasse au mieux, qu'on se fasse aider et voilà quoi.
Vous allez la faire l'organisation visiblement Annie Marty Skynen, c'est la clé en fait.
Voilà, je pense que l'égalité n'est pas trouvée non plus, elle n'est pas évidente, elle ne s'instaure pas automatiquement dans les couples du même sexe. On trouve l'inégalité économique entre les professions des conjoints qui peuvent jouer. Donc, il y en a un qui s'investit. En général, c'est lui qui a un statut plus élevé, qui gagne mieux sa vie, qui s'investit. Donc, on peut trouver une répartition des tâches, en fait, basée sur l'économique. Et le genre est traversé par l'économique. On sait que les salaires des femmes, etc., d'une part. Et d'autre part, juste un autre point, c'est que dans les couples homosexuels, quand on a un parent biologique, on peut renvoyer plus ou moins implicitement, inconsciemment, la plus grande part de responsabilité à celui qui a un lien biologique. Et c'est aussi quelque chose qui fait que la société attribue aux femmes la primo-responsabilité.
Merci beaucoup. Merci vraiment de vos nombreux appels. Je voudrais m'excuser auprès de Nandini parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre son appel qui concernait l'allaitement. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet très compliqué. On a parlé des corps malgré tout. Je renvoie à votre livre. René Grosart, c'est publié chez Jean-Claude Lattès et ça s'appelle « Choisir d'être mère ». Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité. Merci vraiment.
Merci beaucoup.